Yofi, ben Sadar Gamour, Shavua Tov, Boker Tov, les Koulam, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah et on est arrivé à une période où il va se passer énormément de choses. La dernière fois, on avait parlé donc des fameux faux messies de cette époque, de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui, avec Chabtaï Tzvi, tout ça avait amené, et les pogroms de Khmelnytsky avaient amené énormément de désillusions au sein du peuple juif. Le 18e siècle, j'ai perdu. Voilà, comme ça s'est fait. Le 18e siècle, eh bien, va être un véritable renouveau au niveau de l'enseignement des secrets de la Torah. Il est très probable que ce soit justement une réaction, ben, à tous les dérives de Chabtaï Tzvi, les dérives des drames qui ont été causés dans le peuple juif. Mais il va y avoir également, eh bien, une grande influence négative au sein de l'enseignement de la Kabbalah suite, eh bien, à Chabtaï Tzvi. L'un de ces enseignements extrêmement négatifs, c'est qu'à partir de maintenant, dans le monde occidental, eh bien, l'enseignement des secrets de la Torah commence à être très mal vu. Très, très mal vu. On a peur, dans toutes les communautés, de voir réapparaître un nouveau Chabtaï Tzvi. Et donc, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qui va arriver au bonhomme que nous allons évoquer aujourd'hui. Il y a trois grands axes qui commencent au XVIIIe siècle. Il y a un homme qui n'est absolument pas touché par l'univers de Chabtaï Tzvi parce que venant du Maghreb. Et là-bas, eh bien, il n'y avait pas vraiment cette influence-là. Et donc, finalement, lui, il ne va pas être trop, trop embêté par ce qui s'est passé avant lui. Mais on ne va pas l'étudier aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine. On parle de Rabbeinu Chaim Ben Natar, Aor HaChaim HaKadosh. Mais ça, on le garde pour la semaine prochaine. C'était un vrai débat pour moi-même de savoir est-ce que je parlais d'abord du Aor HaChaim ou d'abord du personnage qu'on va évoquer aujourd'hui. Ils sont morts à un an d'écart, sauf que ils sont nés à 50 ans d'écart. C'est-à-dire que, alors que le Aor HaChaim HaKadosh mourra à la fin de la première moitié du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, en 1744, je crois, ou 43, mais lui, il va naître dans les années 60 de 1600. C'est-à-dire que le Aor HaChaim est quelqu'un qui va vivre longtemps. Alors que nous, aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune homme qui mourra jeune homme, puisque lui aussi va mourir dans les années 1944-45, ce n'est pas clair, mais il va naître dans les années 1706-7, pas clair non plus, mais ça veut dire qu'il n'aura même pas 40 ans. Ben, non, quand je dis 44-45, ce n'est pas parce que je ne sais pas, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est pas clair. Ah, tu parles du Aor HaChaim? Ah, le Aor HaChaim Yecholiot, 45. Yecholiot. Non, moi, ce que je dis, on ne sait pas, c'est par rapport au personnage que nous allons évoquer aujourd'hui, à savoir, évidemment, vous aurez compris, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Haramchal. OK? Et le Haramchal, c'est pas très clair. Est-ce qu'il est mort? Il avait 37 ans, 38 ans, 40 ans? Lobarour. Lobarour, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons parler de cette masterpiece qui s'appelle le Ramchal. Beseder? Alors accrochez vos ceintures parce que le voyage vers le Ramchal va pas être de tout repos et il va commencer avec une anecdote. Une anecdote personnelle de moi-même. Lorsque dans ma folle jeunesse, j'étais à l'armée, eh bien, vous savez, des fois à l'armée, on fait des petites bêtises, des plus grosses bêtises, des moins grosses bêtises. Et on n'a pas envie de se faire punir, évidemment. Et donc, on développe des stratagèmes pour réussir à passer entre les mailles du filet. Eh bien, un jour, j'étais en train d'être à un endroit, en train de flâner, à un endroit où je ne devais pas être. Et tout d'un coup, arrive un rassard. Alors, le rassard, c'est quoi un rassard? C'est le mec que tout le monde déteste dans les bases militaires. C'est le mec qui est responsable de la discipline de la base. Autant te dire que quand il passe, les soldats trépassent. Et moi, j'étais à un endroit où je ne devais pas être. Et donc, il m'appelle et il me dit, « Ayol, soldat, viens ici !» Et là, je n'ai eu que 10 secondes pour préparer ma défense. Parce que sinon, c'était Shabbat. Hein. C'était directement Shabbat dans la tête. Et là, en 10 secondes, je me suis dit, et j'ai regardé la tête du Rassar, je me suis dit, celui-là, il n'a pas dû mettre beaucoup les pieds dans un Beit HaMidrash. Et vu qu'à l'armée, tout marche avec des initiales que personne ne connaît. Alors il m'a dit, quand je suis arrivé à portée de lui, il m'a dit, « Mais attends, Sepo, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit, « Attends, Miani. » J'ai dit, « Tu sais qui je suis ?» Il m'a dit, « Mais attends. » J'ai dit, « Ani Aramchal. » Et là, il m'a regardé, il n'avait absolument rien compris à ce que je disais, mais je l'avais dit avec pathos, je l'avais dit avec beaucoup de confiance en moi. Il m'a dit, « Aramchal. » Il m'a dit, ok, tu es le Ramchal, très bien, bonne chance, allez, bye bye. Et je m'en suis sorti grâce à Rabbi Moshe Chaim Lutzato. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir pris son nom d'emprunt pour ne pas être puni. Voilà, ça c'était l'anecdote. Maintenant que l'anecdote est faite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Mes amis, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, alors, on est obligé hein, de commencer un tout petit peu avec des informations un petit peu bibliographiques, mais en malasot, on n'a pas vraiment le choix. Aramchal, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il naît dans une famille de Talmidei Chachamim. Il vit dans une ambiance de Torah, il a grandi là-dedans. Il vient de Padova, en Italie, évidemment, et il à la base, fait partie de la communauté ashkénaze de la ville. Alors, je vous dis ça avec beaucoup de pincettes et de précautions, parce que le Rav Cherki nous avait enseigné un jour qu'il était séfarade complètement, et que le fait qu'il étudiait et priait dans les sidourim ashkénazes, c'est parce qu'il voulait pouvoir utiliser les piyutim de Rabbi Eliezer à Kalir, mais que sa famille elle-même était séfarade. L'Opachout, la famille Lutzato est comprise dans la communauté ashkénaze de Padova. Donc, bon, je ne rentre pas dans le débat, est-ce qu'il était lui-même ashkénaze ou séfarade, c'est moins intéressant. Quoi qu'il en soit, donc, il est le fils de Rabbi Yaakov Chai Lutzato, qui est déjà parmi les riches marchands Talmidei Chachamim de la ville. Et donc, il va étudier très jeune avec son père, avec son oncle. Et quand je dis avec son oncle va jouer un rôle très particulier dans la vie du Ramchal pour une raison très simple. La raison, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'oncle du Ramchal possède une sifria, une bibliothèque absolument incroyable. Comment ça, absolument incroyable? Eh bien oui, la bibliothèque du Ramchal, de l'oncle du Ramchal, qui s'appelait Yitzhak Chaim. Eh bien, Yitzhak Chaim a une bibliothèque incroyable car on peut y retrouver tout. C'est-à-dire quoi, tout? Ben oui, tout. C'est-à-dire que la bibliothèque dans laquelle le Ramchal va faire ses dents, eh bien, c'est une bibliothèque qui a tout ce qui a été imprimé à cette heure-là. En Torah, en science, en philosophie, tout ce qu'on peut avoir imprimé, eh bien, se trouve dans cette bibliothèque-là. Résultat des courses, eh bien, le Ramchal, à l'âge de 12 ans, a fini de tout lire. C'est-à-dire que, comprenez bien de quoi on parle. On parle d'un homme qui, à 12 ans, a fini d'étudier tout ce qu'il y avait à étudier. C'est énorme. C'est énorme. Et tout le monde lui reconnaît sa grandeur. Et évidemment, tout va commencer un petit peu à partir en vrille lorsqu'il commence à écrire son premier livre à un âge extrêmement avancé, puisqu'il commencera à écrire à l'âge de 15 ans. À 15 ans, il écrit son premier livre. Quels sont ses premiers livres? Eh bien, oui. Et là, on va tout de suite rentrer dans le débat. Le Ramchal n'est pas un rabbin comme les autres. Et vous savez quoi? Je vais commencer par là pour revenir à sa vie et à son œuvre. Le Ramchal est considéré par trois groupes, mais je vais même dire quatre groupes de juifs qui, juste après lui, ne se parlent pas. Je ne vais pas dire qu'ils se détestent les uns les autres, mais c'est tout comme. Et pourtant, les quatre se revendiquent du Ramchal. Le premier groupe, c'est la Chassidoute. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, mais on commencera à rentrer dans la Chassidoute, c'est la même époque. Rabbi Israël Baal Shem Tov, né à la toute fin du XVIIe siècle. Donc, la Chassidoute se revendique du Ramchal. D'un autre côté, les Mitnagdim, les élèves du Gaon de Vilna, se revendiquent également du Ramchal. D'un troisième côté, Rabbi Israël Salanter, Torah Tamoussar, se revendique également du Ramchal. Et la Haskala, l'émancipation qui a abandonné la Torah, se revendique également du Ramchal. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce qu'on va le voir, le Ramchal, il est les quatre, mais que dans les bons côtés. C'est-à-dire que le Ramchal, toute la Torah pnimite profonde qu'on va retrouver après dans la Chassidut, évidemment, elle est chez le Ramchal. Toute la Torah du Limoud va se retrouver dans le Ramchal. Toute la Torah de la morale va se retrouver dans le Ramchal. Et la capacité de nager également dans le monde du Chol, eh bien, on va le retrouver également chez le Ramchal. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de ces bouquins, eh bien, faut savoir que le Ramchal a écrit des livres Chol. Et ça, c'est une des choses qui vont commencer à énerver tout le monde. Parce que comment ça, t'écris des livres de Chol? Par exemple, eh bien, faut savoir que le Ramchal va écrire des pièces de théâtre. Ben ouais. Le Ramchal écrit des pièces de théâtre. Comme la plus connue, c'est Maasé Shimshon, où en fait, il va mettre en scène l'histoire de Shimshon, que vous connaissez dans le Tanakh, mais avec, sous couvert de pièces de théâtre, énormément de secrets de la Kabbalah. Il écrira une autre pièce qui s'appelle Migdal Oz, ou alors un qui a été mis en scène il y a une dizaine d'années, s'appelle La Yesharim Te'ila, qui est une pièce sur la morale humaine. Donc, des pièces de théâtre. Mais le Ramchal va également écrire des livres d'études Chol. Par exemple, eh bien, il va écrire un livre qui s'appelle « Leshon Limudim », qui explique comment est-ce qu'on écrit un texte. Il écrira un autre livre qui s'appelle « Sefer Higayon », tout un livre qui parle de la logique et les principes régissant la logique. Un livre qui s'appelle Sefer Amelitsa, qui est un livre sur la rhétorique et pour apprendre comment convaincre l'autre. Et enfin, Sefer Adikduk, le livre de la grammaire. Oui, la grammaire hébraïque. La grammaire. Maintenant, vous comprenez que le Ramchal, lorsqu'il écrit ces bouquins-là, une des raisons pour lesquelles il écrit ces livres-là, c'est parce que c'est son métier! Alors, ça dépend. Sefer HaDikduk, en quelle langue ont été écrits les livres? Sefer HaDikduk en hébreu, parce que c'est pour le Dikduk hébraïque, mais les autres livres en italien. Sefer HaMelitza, Sefer HaHigayon, c'est en italien. Leshon Limudim, c'est également en italien. Ça va être traduit, évidemment. Mais voilà. Maintenant, pourquoi il écrit ça? Parce que c'est son métier. Eh oui, le Ramchal ne peut pas être payé pour enseigner la Torah, parce que c'est interdit. Par contre, il enseigne le Chol. OK ? Il va également apprendre un autre métier quand il va arriver plus tard à Amsterdam, mais ça, c'est, on verra quand on en arrivera dans sa vie. Il sera souffleur de verre. Ouais. Bon, ça ne marche pas super. Hein. Ça ne marche pas super. Il est meilleur quand il utilise sa bouche pour parler que pour souffler du verre. Mais c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, vous remarquez que donc le bonhomme... c'est pas un style classique, c'est pas un rabbin classique. Et si on va plus loin, les amis, le Ramchal va également avoir des élèves qu'il enverra à l'université de Padova. Tous les élèves du Ramchal étudient la refoua, étudient la médecine à l'université de Padova. On est quand même dans une ambiance qui n'est pas du tout l'ambiance classique des rabbins. Maintenant, le Ramchal va avoir plusieurs problèmes pour être accepté. On a dit, c'est à 15 ans qu'il commence à écrire. Il est très jeune. Il est très jeune et il est surtout célibataire. Oui, parce que le Ramchal va se marier uniquement à l'âge de 26 ans, lorsqu'il sera déjà connu, très connu. Mais ça, on y reviendra. Donc, imaginez-vous deux secondes. Avant qu'on commence à parler de son CV, vous faites face à un monsieur qui a un charisme extraordinaire, qui est célibataire, qui enseigne les secrets de la Torah, qui est rasé, qui n'a pas de barbe, et qui est habillé tel un riche noble de la Renaissance. Est-ce que vous imaginez comment il est perçu chez les vieux rabbins avec des grandes barbes? Ben ouais. Ben ouais, tout avant même qu'il ait parlé, on se dit que c'est un élève de Shabtai Tzvi, celui-là. Vous imaginez? Célibataire, rasé, habillé à la noble mode italienne, et qui parle de secret de la Torah. Chaud, 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 cacao. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas porteur d'une barbe? Parce que d'après les Mekoubalim d'Italie, la barbe, c'est la madriga d'Eretz Israël. Et le Ramchal se laissera pousser la barbe lorsqu'il arrivera en Israël. Mais ça, c'est la fin de son histoire. Alors, Bekitsour, maintenant qu'on a parlé de plein d'introductions, venez, on rentre dans l'univers du Ramchal. Alors, le Ramchal va commencer à faire ses armes avec Rabbi Binyamin HaKohen Vitali. Mais en vérité, son véritable rabbin, chez qui il va vraiment grandir, s'appelle Rabbi Yishayahu Bassan. Rabbi Yishayahu Bassan, jusque vous resituiez plus ou moins, était l'élève de Rabbi Binyamin Halevi, qui lui-même était l'élève de Rabbi Moshe Zakout, qui lui-même était l'élève de Rabbi Binyamin HaKohen, qui lui-même était l'élève du Harizal. Donc nous avons une lignée de Chachamim qui nous relie le Hari à Rabbi Chaim Vital. Alors, Beseder Gamour, mais c'est le problème va commencer lorsque finalement, après avoir étudié longuement chez Rabbi Yishayahu Bassan, on a dit, lorsqu'il a 15 ans, on est en 1722 à peu près, eh bien, c'est là qu'il commence à écrire. Alors, Beseder, tant qu'il écrit des livres, on a dit, de logique, de rhétorique, bon, c'est pas grave, maximum, ça ne sera pas un rabbin. Mais lorsqu'il va commencer à écrire des livres qui, d'après lui, lui sont dictés par un maguide, alors là, ça devient une autre histoire. En 1726, il est ordonné rabbin. Il est rabbin. Il reçoit sa smicha de Rabbi Moshe David Viali et il va créer une chaboura, pour ne pas dire une yeshiva, parce que vous allez voir le nombre d'élèves, mais il crée un bet midrash qui s'appelle Mevakshe Hashem, ceux qui appellent Dieu. Et il devient le Rosh HaYeshiva de Mevakshe Hashem, une yeshiva extrêmement fournie, puisqu'il y a 6 élèves. Voilà. Oui, mais tu m'étonnes, parce que pour rentrer dans la yeshiva du Ramchal, il faut avoir des critères absolument démentiel. Mazemagid, 2 secondes, j'y reviens. 2 secondes. Là, pour l'instant, je suis juste à la yeshiva, mais je commence avec la yeshiva pour que vous compreniez dans quelle ambiance il est. Donc, le Ramchal va être à la tête de Mevakshe Hashem, 6 élèves, et pour pouvoir rentrer à la yeshiva, il y a plusieurs klalim. Le premier, c'est que tu n'as pas le droit de penser que ton étude va te profiter en aucun cas, que ce soit au niveau de ta parnassa, Donc, tu n'as pas le droit d'enseigner la Torah pour prendre de l'argent, mais également au niveau de ta neshama. Tu n'as pas le droit d'étudier dans cette yeshiva si tu penses que ton étude va aider à corriger ta propre neshama. Et là, toute ton étude doit être tournée vers Tikkun Ashrina, vers le retour de la présence divine dans ce monde, point. Un autre critère pour entrer dans la yeshiva, on n'a pas le droit d'être en colère. Si tu te mets en colère, tu es viré. Et si tu te mets en pré-colère, avant d'être en colère, mais que les gens y voient que ça monte, la moutarde, alors tous les membres de la yeshiva, les 5 autres, doivent t'entourer et te dire « Tnu kavod l'Elohe Israël ». Et tu dois te calmer tout de suite. Sinon, t'es viré. Bon, c'est une ambiance, hein. C'est une ambiance, je ne sais pas si à la yeshiva online, ça marcherait, je ne sais pas. En tout cas, c'est une ambiance. Et parmi ces élèves, et c'est là que tous les problèmes commencent, il y a un homme qui s'appelle Rabbi Yekutiel Gordon Mivilna. Rabbi Yekutiel Gordon de Vilna est un grand Talmid Chacham, qui est d'ailleurs beaucoup plus vieux que le Ramchal. Tous ses élèves sont plus vieux que lui, hein, que les choses soient bien claires. Et le problème, c'est que eh bien, Rabbi Yekutiel Gordon est Ashkenaz. Et alors, grave, il y a des gens bien qui sont Ashkenaz. Pourquoi est-ce qu'on s'excite ? Eh bien, tout simplement parce que Rabbi Ishayahu Bassan va lui dire « Mais pourquoi tu as enseigné à cet Ashkenaz-là » Ça veut dire quoi, pourquoi tu as enseigné à cet Ashkenaz ? Dans le monde Ashkenaz d'Europe de l'Est, il y avait, à cause de Shabtai Tzvi, eh bien, cette scission avec le monde de la Kabbalah. Et donc, le problème, c'est que Rabbi Yekutiel Gordon est tellement émerveillé par les enseignements de son maître, le Ramchal, qu'il va les publier. Ben oui, je veux faire de la pub de mon Rav. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon Rav, c'est le meilleur. Le problème, c'est que c'est là que tous les problèmes commencent. Et alors que le Ramchal dit à ses élèves en 1727 qu'il a reçu un Giloui, mais un Giloui, un dévoilement divin, et il écrit comme ceci. Nirdamti, ubeakitsi, shamati kol omer. Ma omer, legalot razim tamirim shel ha-melech ha-kadosh yaradeti. ואני לא רואה אותו, אלא שומע קולו מדבר מתוך פי. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Dans ces igrotes à Ramchal, eh bien, le Ramchal explique à ses élèves que voilà, il a reçu la visite d'un ange qui vient lui dicter une Torah mina Elyonim. C'est ça un Maguide. Un Maguide comme Rabbi Yosef Karo avait eu, mais c'était une autre époque. Et donc, il n'y avait pas le passage de Shabtai Tzvi entre les deux. Eh bien, un Maguide, c'est un malar qui vient et qui t'enseigne la Torah. Et le Ramchal nous dit, ben voilà, j'ai reçu la visite de mon malar et il m'a enseigné, voilà, il parle à travers moi et moi, je suis obligé d'écrire. Maintenant, il a 20 ans. Et qu'est-ce qui va sortir en premier lieu de ses discussions avec son Maguide ? Eh bien, va sortir un livre. Un livre qui s'appelle Zohar Tanina. En français, le deuxième Zohar. Eh oui, vous commencez à imaginer ce qui va se passer. Il écrit un nouveau Zohar. Waouh ! Oui, oui, vous avez bien compris. Un nouveau Zohar. Rabbi Moshe Chaim Lutzato dira dans une de ses igrotes que le dévoilement des secrets de la Torah, Akadosh Baruch Hu l'a fait descendre en 3 étapes. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer HaZohar. Il y a Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Ahari. Et il y a moi. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place 2 secondes des rabbins de son époque ? Eh oui, c'est très très dur à accepter, même si aujourd'hui on sait qu'il avait raison. C'est très très dur à accepter pour les rabbins de l'époque. Et donc, eh bien, c'est là que va commencer le poulmous, c'est là que va commencer les balaganes. Parce que suite à aux lettres et aux publications de Rabbi Yekutiel Gordon, eh bien, tout d'un coup, les agissements et les enseignements du Ramchal commencent à être connus. Et ça commence à arriver très loin, y compris à Jérusalem. Et à Jérusalem, eh bien, il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi Moshe Chagiz, qui va être extrêmement, extrêmement virulent contre le Ramchal. Il vient de Jérusalem, mais il marche, il tourne énormément en Europe, et il va prendre en grippe le Ramchal et va tout faire pour qu'il ne puisse plus continuer à enseigner Shum Davar. Et le Ramchal commence à être obligé de se cacher. Eh oui. Au départ, eh bien, ce sont tous les rabbins de Venise qui s'accordent pour faire un cherem contre le Ramchal s'il n'accepte pas de signer un texte comme quoi il ne sortira plus jamais de livre de Kabbalah. Et voilà le texte que le Ramchal doit signer. Liot me'asef elai vegonez ka'asher yirtze kol chiburai asher asiti ad hayom haze af al pi alitra על פי יד המגיד ונשמות הקדושים שלא יצאו חוצה אלא על פיו כל ימיו חייו שיחיה לאורך ימים וכו'. בהיות שאין דעת חכמי הדור חפצה שהתפשטו חיבורים חדשים כאלה מחוכמת האמת בישראל פן באיזה צד חס ושלום יצא מהם חורבה בין המון ישראל לפי חומר עניינים, וגם מעכשיו יהיה משיב ידי מלכתוב עוד שום חיבור בלשון זוהר או באיזה לשון שיהיה בשם מגיד או נשמות קדושים. Voilà ce que le Ramchal doit écrire. Enfin, doit signer surtout, c'est pas lui qui a écrit, on lui a écrit et il devait le signer. Genre, je m'engage à ne plus jamais écrire des choses de Kabbalah. Et tout ce que j'ai déjà écrit, je l'enferme. Je l'enferme et je le dévoile plus. Vous imaginez un petit peu ce que c'est pour un rabbin. On lui dit tout ce qui est ton enseignement, ce pourquoi tu es sur terre, c'est ce qu'il pense. Tu n'as plus le droit de l'enseigner. Caché. Caché, méod, méod. Tov, alors qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, le Ramchal en a marre et il s'en va. Il s'en va. Finalement, en 1931, il se marie. Mais vous imaginez que il est... Alors, c'est très, très bizarre parce que là, pour le coup, c'est très tardif. C'est très tardif. Il a 26, 27 ans quand il se marie. Il se marie et finalement, une fois... Alors, il se marie une fois qu'il a signé qu'il ne fera plus de remous kabbalistiques. Donc, les rabbins de l'époque et de cet endroit-là, Anteli se calme un petit peu avec lui. Et finalement, Rabbi David Pinchi accepte de lui donner sa fille et ils vont se marier. Besseder. Mais en 1734, il dit, ça y est, j'en ai marre. J'ai besoin de commencer à réimprimer mes bouquins. Donc, je demande à mon rave, Rabbi Ishayahu Bassan, est-ce que je peux aller imprimer mes livres à Amsterdam ? Je sors de l'influence vénitienne et de Padova d'Italie et je pars à Amsterdam. C'est là ? Alors, je pars à Amsterdam. Je pars à Amsterdam et là, je vais imprimer mon premier nouveau livre. Et ça, c'est un livre très important que peu de gens connaissent aujourd'hui. Il s'appelle Seder Vikouach. Seder Vikouach. Mazé Seder Vikouach. Eh bien, c'est la première version d'un autre livre que vous connaissez mieux qui s'appelle Messilat Yesharim. C'est-à-dire que le Seder Avikouar ou Ma'amar Avikouar, c'est la version du Messilat Yesharim mais qui n'est pas en mode monologue comme nous on a étudié dans la Yeshiva Online, mais qui est une joute verbale question-réponse entre Achacham ve Achassid. Ok ? Donc c'est un livre qui raconte la même chose que Messilat Yesharim, mais qui est ordonné différemment. Seulement, une fois qu'il recommence eh bien, à imprimer des bouquins, il passe aussi par Francfort. Et à Francfort, eh bien, on lui ordonne, cette fois devant le Beit Din, à Francfort, on lui tend un piège. C'est-à-dire qu'il passe par Francfort pour arriver à Amsterdam. Et à Francfort, on lui tend un piège. Le Beit Din l'arrête et lui dit « Ce que tu as signé en Italie, ça ne suffit pas. Tu vas nous amener toutes tes kitveyades, tous tes bouquins, tous tes écrits secrets et on va les mettre dans une boîte en métal, une boîte en fer qui sera enterrée à Francfort. Pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Certains de ces écrits d'ailleurs seront brûlés, d'autres seront mis dans la boîte et enterré à Francfort. Cette boîte n'a toujours pas été retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a perdu tous les écrits du Ramchal ? Non. Parce que juste avant d'enterrer la boîte, les élèves du Ramchal ont recopié près de la moitié de ces écrits. Oui, car quand on parle des écrits du Ramchal, que ce soit ceux qui ont été faits jusqu'à l'époque Francfort ou même après, on parle de près de 80 livres. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la portée du Ramchal alors qu'il n'a vécu même pas 40 ans. Ça fait presque 2 livres par an. Aujourd'hui, en 2023, on ne connaît qu'une quarantaine de ces livres. Les autres, on ne les a toujours pas retrouvés. Et peut-être qu'on ne les retrouvera jamais. D'ailleurs, un fait un peu important, c'est que pendant près de 300 ans, le seul livre du Ramchal qui était connu, c'était Messilat Yesharim. Ce qui a permis eh bien, au fait que le Ramchal devienne une star dans le monde juif. Puisque le Messilat Yesharim était le livre qui était écrit officiellement sans une trace de Kabbalah, il a été accepté par tout le monde. Et tout le monde a dit « Ah ben ça va, ce livre-là, c'est bon. » Et le Gaon de Vilna ira même jusqu'à dire que s'il était encore en vie, il irait depuis Vilna jusqu'à Padova à pied pour aller rencontrer le Ramchal, pour voir l'auteur du Messilat Yesharim. Et donc, si vous voulez, pendant 300 ans, Messilat Yesharim a fait du Ramchal une star, et Kadosh, ce qui fait que maintenant, quand on a retrouvé tous ces livres de Kabbalah, on ne peut pas l'accuser d'être un hérétique, parce que c'est le Ramchal. Donc, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses comme il faut. Quoi qu'il en soit, le Ramchal, après avoir été poursuivi comme ça tout le temps, il arrive à Amsterdam, on a dit, en 1935, et il commence à écrire, parce que ça y est, Mahamar Avikouar, c'est passé crème, donc il écrit Messilat Yesharim également. Il va écrire également le livre Derech Hashem. Alors, bien que Derech Hashem soit plus kabbalistique que Messilat Yesharim, vous l'avez étudié avec le Rav Yoel, c'est moins officiel que c'est de la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il y a plus de Kabbalah que dans Messilat Yesharim, mais ce n'est pas clairement dit. Donc, ça passe encore. Par rapport à ces autres livres, qui sont tout simplement des livres de Kabbalah de A à Z. Et d'ailleurs, il serait peut-être temps de voir un petit peu quels sont les livres du Ramchal. Eh bien, on a dit, au-delà de Messilat Yesharim, de Hachem, qu'on connaît, eh bien, il va écrire un livre, je ne vais pas tous les citer, hein, évidemment, mais quand même, il va écrire un livre qui s'appelle Dat Tevunot. Dat Tevunot, qui est en fait un vikouach, aussi un dialogue entre le Sechel et la Neshama, qui vérifie les bases de la Emouna du peuple juif. Qu'est-ce que c'est la Shgacha ? Qu'est-ce que c'est la valeur intrinsèque de l'homme ? Et comment l'homme doit interagir dans son monde ? Il va écrire un livre qui s'appelle également, et ça va être le livre de base de sa Kabbalah, qui s'appelle « Klach Pitre Chochma ». C'est un livre complètement de Kabbalah où le Ramchal, en 138 chapitres, va expliquer toute la Torah de la Kabbalah du Hari selon sa vision à lui. Il va avoir évidemment un livre qui s'appelle « Derech Etzraim » qui explique comment est-ce qu'on étudie la Kabbalah, qui est en fait une introduction à « Klach Pitre Chochma ». Il va écrire aussi un livre contre toute l'idéologie de Shabtai Tzvi. Il s'appelle Kinat Hashem Tzevaot, pour bien montrer qu'il n'est pas du tout d'accord avec l'idéal de Shabtai Tzvi. Il va écrire un livre qui s'appelle Adir Bamarom, qui explique, c'est un commentaire de la Hidra Rabba, donc des parties très profondes du Zohar. Il écrit un livre qui s'appelle Mishkene Elion, sur comment va être reconstruit le troisième temple. Il écrit un livre qui s'appelle Mahamar Geoula, où on va, entre autres, avoir son point de vue par rapport à la Shoah. Et le Zohar Sheni, on en a parlé déjà. On va pas tous les citer. Baruch Hashem, le Ramchal est un puits de Torah extraordinaire. Finalement, dans les années, on a dit c'est pas très clair, mais dans les années 1941-42, il décide de partir en Eretz Israël. Zéhou, il en a marre d'être poursuivi partout, il part en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, par lequel on commence, Messilat Yesharim. On commence par Messilat Yesharim. C'est pour ça que nous, dans la Yeshiva Online, on a commencé par Messilat Yesharim. En parallèle, vous aviez Derech Hashem avec le Rav Yoel. Donc une fois que tu as commencé par ces deux bouquins-là, après tu peux commencer à rentrer un petit peu plus dans le Ramchal, Bedat Vunot. Une fois que tu as fini Bedat Vunot, tu étudies Derech Etzraim, tu étudies également. Agav, il a écrit ici un livre, Derech HaChokhma, qui vient expliquer comment on étudie le Talmud. Ça aussi, c'est Gam Chashuv, qui montre que le Ramchal n'était pas que Baki Baya Kabbalah, mais également dans le Talmud, évidemment. Quoi qu'il en soit, donc finalement, il part en Eretz Israël. Il part en Eretz Israël parce qu'il en a marre, il en a marre d'être poursuivi, il en a marre que tout le monde vienne chercher des noises. Il part en Eretz Israël, c'est terminé. Il part en Eretz Israël et il va aller s'installer à Akko. Il va passer par Tzfat, par Tibériade, mais finalement, il va s'installer à Akko. Il y a aujourd'hui, dans la vieille ville de Akko, la synagogue du Ramchal. Synagogue du Ramchal, avec une particularité, parce que la bima, elle est en contrebas. C'est-à-dire que le chazan, il est sous le sol, comme c'était le minag des Mekoubalim en Italie, que le chazan, c'est « mima'amakim kerati'cha Hashem ». C'est des profondeurs, je vais t'appeler éternel. Ok ? Le Ramchal, finalement, mourra un an et demi, plus ou moins, voire deux ans, après son arrivée en Eretz Israël, de la peste. Il va avoir une terrible épidémie de peste qui va frapper Eretz Israël. Et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim, Lotzato, sa femme, son fils, vont être décimés par cette maladie terrible. Finalement, le Ramchal va être, comme on a dit, l'un de ceux qui va avoir une influence sur tout le peuple juif, parce qu'il y a chez lui des écronotes, des enseignements qui sont peut-être pas inventés par le Ramchal, mais mis en écriture pour la première fois de manière claire par le Ramchal. Par exemple, le Ramchal va être le premier à expliquer de manière très concise et claire, mais claire, que l'homme doit travailler à obtenir, il doit mériter sa vie. L'homme doit mériter son existence. Et c'est ça la raison du temps. Le Ramchal est le premier qui va clairement expliquer pourquoi Dieu a créé le temps. Et c'est pour que l'homme puisse avoir le temps de mériter son existence. Ok ? Alors évidemment, ce n'est pas le Ramchal qui a inventé ça. C'était marqué de manière évasive dans le Midrash. Lorsque le Midrash nous dit « Betechila ratza akadosh baruch hu livro et haolam bemidat adin, ra'a she'en haolam mitkayem shitef lo midat harachamim. » Dieu a voulu créer le monde par la tribu de rigueur, il a vu que ça ne marcherait pas, il y a mis la miséricorde. Ça, c'est ce que dit le Midrash. C'est le Ramchal qui vient et nous explique que Midat Adin, c'est ben, rendre justice. J'ai reçu la vie par bonté. Si je ne la mérite pas, je dois la rendre. Or, pour pouvoir la mériter, eh bien, il va falloir que je travaille. Pour ça, il me faut rachamim. Rachamim, c'est le pluriel de rechem. Rechem, ça veut dire un utérus. L'utérus a pour rôle de permettre à l'embryon d'être viable. Ça donne le temps à l'embryon d'être viable. Donc, c'est ça que veut dire midat ha-rachamim. Ce n'est pas la miséricorde, c'est le temps. C'est qu'on me donne le temps de mériter ma vie. Également, le Ramchal va nous expliquer al-she'elat ha-ra ba'olam. Il y a du mal dans ce monde. Comment est-ce possible si Dieu il est bon? Comment est-ce possible qu'il y a du mal? Eh bien, c'est le Ramchal qui va nous expliquer dans Da'at Kevunot qu'il y a deux façons pour Dieu de gérer le monde. Il y a ce qu'on appelle Anagat HaMishpat, c'est-à-dire la gestion par la justice. Tu fais bien, tu reçois bien. Tu fais mal, tu reçois mal. Mais il y a également Anagat HaYichud. Anagat HaYichud va même Shala. Où Akadosh Baruch Hu, il fait passer des choses qui, d'après la loi, d'après la justice, c'est pas juste, mais Akadosh Baruch Hu, il sait pourquoi il le fait. Et donc, des fois, il y a des choses qui doivent passer par des dimensions négatives. Nachon, d'après la Mishpat, d'après la justice, la Halakha, c'est l'auteur, alors Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et puis d'ailleurs, c'est le Ramchal qui va nous dire que Akadosh Baruch Hu, pourquoi a-t-il créé le monde? Parce que Tevatatov l'étiv. Parce que Dieu, il est le bien par excellence. Et le bien par excellence, c'est le don. Et il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. Donc Dieu a créé le monde parce qu'il est celui qui donne. Le Ramchal va également nous expliquer qu'il y a une évolution de ce monde. Itpatrut haolam. Qu'on va retrouver après dans les théories scientifiques qui viendront 100, 150 ans plus tard. Il y a une évolution dans le monde. Et cette évolution n'est pas seulement décrétée par Dieu, mais elle va aussi être mise en marche par l'homme. L'homme a un rôle à jouer dans l'évolution du monde. Par rapport au Beth Amikdash, le Ramchal va nous dire quelque chose de fantastique. Alors que le Rambam, pour lui, c'est clair que c'est l'homme qui doit construire le troisième Beth Amikdash, que certains veulent nous faire croire que Rashi pense que le troisième Beth Amikdash va tomber du ciel, le Ramchal, lui, dans son livre Mishkenei Elyon, va nous dire tout simplement comment le Beth Amikdash, ça va se passer. Il dit, c'est pas compliqué. Le Beth Amikdash va tomber du ciel, et une fois qu'il sera tombé du ciel, on va le construire. Et il nous explique que le Beth Amikdash qui tombe du ciel, ce n'est pas du tout un astéroïde avec un Beth Amikdash qui existe dans l'espace. Et qui un jour va tomber sur le mont du temple. Non, c'est qu'une fois que l'idéal du Beth Amikdash au niveau Elyon va descendre du ciel, parce qu'Akadosh Baruch Hu va le faire descendre dans les consciences de nous, alors on saura comment le construire, Befoal. Pareil, le Ramchal, dans son livre Mahamar HaGeoula, nous explique l'éventualité de la Shoah. Nous explique le Ramchal que dans ce monde, Dieu se dévoile soit par le gouvernement de la porte, soit par le gouvernement des fenêtres. Lorsque c'est le gouvernement de la porte, c'est la Géoula. Il y a une grande porte qui sépare le monde de la créature du créateur, mais en Géoula, la porte est ouverte. Et donc, il y a une lumière énorme du créateur qui parvient à la créature. Bah, Galout, la porte est fermée. En exil, la porte est fermée, mais les fenêtres sont ouvertes. Il y a donc de la lumière qui passe. C'est une moins grande lumière que celle de la porte, mais il y a quand même de la lumière qui passe. Comment on dit le Ramchal, lorsque la galoute se termine, lorsque l'exil prend fin, alors les fenêtres se ferment petit à petit, et ce n'est que lorsque la dernière fenêtre s'est fermée que la porte s'ouvre. Mais nous dit le Ramchal, ça veut dire qu'il y a un temps où il n'y a plus du tout de lumière. Dit le Ramchal, ce temps-là dans les mondes supérieurs est instantané. C'est-à-dire au moment où la dernière fenêtre s'est fermée, la porte s'ouvre. Mais dans notre monde, ce moment-là n'est pas instantané, il prend un peu de temps. Pas beaucoup de temps, mais ça sera le temps le plus difficile de l'histoire, puisque c'est le moment où la lumière divine n'est plus du tout perceptible et la barbarie humaine peut s'en donner à cœur joie. Ben, la Shoah, ça a duré 4 ans. C'est peu dans l'histoire humaine. D'accord ? Le Ramchal va également nous expliquer à propos d'un vicouard qu'il y a dans le Talmud entre les Chachmé Israël et les Chachmé Agoïm, de savoir est-ce que c'est l'équivalent de Chatzot. Non, ce n'est pas l'équivalent de Chatzot. C'est-à-dire que Chatzot Laila, ce n'est pas le moment où il fait le plus sombre de la nuit. Parce que Chatzot Laila, tu es éclairé par la lumière de la lune et des étoiles. Ce que vous voulez dire, c'est juste avant Alot HaShachar. Juste avant Alot HaShachar, il y a un moment où, astronomiquement parlant, c'est parce qu'on se rapproche de la lumière. Donc le scintillement des étoiles s'arrête, mais on ne voit pas encore le début de la lumière. Et donc c'est le moment le plus sombre de la nuit. Juste après, la lumière revient. Ça, donc ce n'est pas Chatzot. Bekitsour, le Ramchal va expliquer également, il y a un vicouard dans le Talmud entre les sages d'Israël et les sages grecs sur des questions astronomiques. Et à la fin du Talmud, eh bien, les Chachmé Israël, à propos de Galgal Choser ou Galgal Kavua, mais ce n'est pas très important, de toute façon aujourd'hui au niveau astronomique, on sait que les deux avis étaient erronés, quoi qu'il en soit, il y a un débat et à la fin du Talmud, les Chachmé Israël odou les Chachmé Yavan. Ils ont dit, bon les gars, vous avez gagné, c'est vous qui avez raison. De là, le Rambam dit, bah, tu vois que donc ça veut dire que dans les questions de science, ce n'est pas toujours les Chachmé Israël qui sont les gagnants. Celui qui a raison, il a raison, même s'il est idolâtre. Le Ramchal, lui, nous dit, d'accord, j'entends ce que tu dis Rambam, tu as raison. Mais là, ma question à moi, c'est pourquoi les Chachamim ont mis ce débat-là dans le Talmud. Le Talmud, ce n'est pas un livre de science. Donc pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis ça dans le Talmud ? Le Ramchal nous explique que ça veut dire que des fois, le langage de la Torah, Torah orale, c'est d'utiliser entre autres la science pour faire des meshalim, pour faire passer des messages. Pas pour donner des réalités scientifiques, mais pour faire passer des messages. Le Rav Cherki avait dit un jour, lorsqu'un parrain, un père, une mère, dit à son fils, tu vois, le soleil, il est parti se coucher, toi aussi, c'est l'heure d'aller se coucher. Ah, il sait très bien que le soleil, il ne s'est pas vraiment couché. Mais j'utilise un machal pour faire passer un message à mon fils parce que c'est l'heure d'aller dormir. Et donc, le Ramchal va nous expliquer que la Mada aussi a son côté scientifique, mais la science a également un rôle pour nous permettre de mettre en parabole certains des enseignements du Créateur. Et bien voilà, vous comprenez que ben voilà, le Ramchal, c'est tout un programme et je pense que les choses sont assez claires. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement d'opposition au Ramchal ? Au final, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, tout le monde se revendique du Ramchal. Tout le monde se revendique du Ramchal et ce n'est pas possible d'étudier le Niglé sans Messilat Yesharim et ce n'est pas possible d'étudier la Kabbalah sans Messilat Yesharim, et ce n'est pas possible d'étudier la morale sans Messilat Yesharim, et ce n'est pas possible de comprendre qu'un juif authentique doit être également impliqué dans la construction de ce monde sans le Messilat Yesharim. En d'autres termes, le Ramchal fait partie intégrante aujourd'hui de tous les enseignements de la Torah. Et c'est pour ça que le Rav Kook, dans l'une de ses introductions de Orot HaKodesh, alors que d'habitude, il met des citations du Zohar. Il y en a une où il met une citation du Ramchal en disant « Kedai hu haramchal lezé ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans le Ramchal aujourd'hui. Est-ce qu'il était Sfarad ou Ashkenaz ? J'ai commencé le cours en disant que ce n'est pas clair. Moi, j'ai reçu de mon maître, le Rav Cherki, qu'il était Sfarad. Plus ou moins, les biographies du Ramchal que tu trouves dans les encyclopédies, machin, le font être appartenant à une famille ashkénaze. Il priait dans un sidour ashkénaze, dans le sidour Redelheim, on a retrouvé les annotations du Ramchal. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il était Ashkenaz ou est-ce que c'est parce qu'il voulait utiliser les kavanotes du Rabbi Eliezer HaKalir? C'est pas clair. C'est pas clair, donc je peux pas te dire vraiment. Une chose est sûre, les minagim bechol mikre de Yehudei Italia, ils étaient un petit peu différents de toute façon que le reste des Sfaradim ou que le reste des Ashkenazim. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment de réponse fixe à ce niveau-là. De où?
Alors, question de Yaakov Zerbe. Vous pouvez rallumer le micro. Yaakov, ton micro.
Yaakov, on ne t'entend pas bien.
Pas.
En tout cas, bravo comme étude, hein, magnifique.
Allez. Yaakov, on ne t'entend pas, je suis désolé. Une autre question? Eh ben, je pense que c'était très clair. Voilà.
Bravo.
Oui, oui, j'ai une question, Rav.
Bravo.
J'ai bien aimé la notion, enfin, j'essaie de comprendre la notion de fenêtre et de porte. Donc, à un moment donné, les fenêtres se sont fermées et avant que la porte s'ouvre, on était dans un temps de noir, il n'y avait plus de lumière qui passait. Donc, c'était un chaos. Et dans cette époque de chaos, il y a eu la Shoah. En hébreu, comment ça se dit chaos et Shoah? Est-ce qu'il y a une gématria entre ces deux termes ou pas du tout?
Pas du tout, dans la mesure où le mot Shoah, c'est un mot en hébreu.
Ah, d'accord. Ok. Et ça sous-entend quoi? Que pendant que Dieu s'est absenté, comment on peut dire que Dieu s'est absenté?
Non, Shoah, c'est un mot qui est écrit dans le Tanakh. Et dans la signification du mot, eh bien, Rashi va nous expliquer que c'est... Broyana Belaz, c'est-à-dire le brouillard. Donc la Shoah, c'est quelque chose qui est un tel drame qu'on n'arrive plus à y voir clair, ni dans le dévoilement divin, ni dans ce qui se passe dans le monde. C'est ce que la Torah appellera Vanochi Aster Astir Panay Bayomahu. C'est le moment où Dieu y masque sa présence. Ok?
Ok.
Alors, merci. La question de Yaakov, pourquoi les Mekoubalim de Bethel sont beaucoup moins versés sur le Ramchal? Et c'est plutôt les élèves du Rav Kook qui vont dans les enseignements du Ramchal. Tu parles de Yeshivat HaMekoubalim Bethel. C'est ça que tu parles, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus... oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus... moins sur le Ramchal? Ils ne sont pas moins sur le Ramchal. C'est juste qu'ils se considèrent... Enfin, ils vont directement, eux, étudier Gourei Ahari. Donc, Rabbi Chaim Vital. Zélo Soter, c'est-à-dire qu'ils étudient aussi, tu demanderas au Rav Naon, ils étudient aussi le Ramchal, c'est juste qu'ils préfèrent après se concentrer dans leur étude sur les écrits de Rabbi Chaim Vital. Mais ce n'est pas qu'ils te disent il n'y a pas le Ramchal, non. Enfin, pas que je sache, quoi, en tout cas.
Alors, il reste 2 minutes, dernière question de Yochevet.
Rav Fison, pourquoi le Rabbi Chaim Lotzato considérait qu'il était temps d'écrire un nouveau Zohar?
Ah, il ne considérait pas qu'il était temps. Il dit, j'ai reçu ça du Malach, et de Malahasot. C'est le dévoilement divin qu'on m'a donné, je suis obligé de le sortir.
Et quelle est la différence?
En quoi c'était nouveau?
Ben, je vous invite à étudier Zohar Tanit, comme ça vous verrez en quoi c'est nouveau.
Est-ce qu'il y a de nouveau?
Juste un teaser.
C'est une explication du Zohar avec les 1500 ans d'évolution de la Torah qu'il y a eu entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le Ramchal.
Juste une question, est-ce que je peux poser encore une question?
Oui, oui.
C'est pour continuer par rapport à justement ce que disait, par rapport aux portes, aux fenêtres qui se ferment et à la porte qui s'ouvre, pour que la porte puisse s'ouvrir. Est-ce que vous pensez qu'on est actuellement dans cette période-là?
Ah oui, bien sûr. Ça y est, la porte est ouverte. La porte est ouverte, la Géoula a commencé, donc ça y est.
Oui. Bon, d'accord, mais il me semble que ce sont des cycles comme un ressort. C'est-à-dire qu'il faut encore qu'il y ait des fenêtres qui se ferment pour que la porte s'ouvre encore plus grand.
Non, non, ça y est, la porte est ouverte. Les fenêtres de l'exil sont terminées, la porte est ouverte. Maintenant, la porte est ouverte, la lumière de la délivrance de la Géoula a commencé largement à nous inonder. Le problème, c'est que nous, on s'est mis des lunettes de soleil.
Voilà. Donc, c'est là que je dis qu'il y a peut-être une histoire de...
Ah, c'est à nous maintenant d'enlever... Voilà, c'est-à-dire que nous avons mis en place des écrans durant l'exil, des écrans au niveau de notre façon de penser, de notre façon de réagir, machin. C'est à nous de nous les enlever petit à petit.
D'accord, merci.
Alors, disons, je vois qu'il est 9h59 et 40 secondes. Toda Rabin, Shavua Tov.